Ushu del país.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Pou-pou-pi-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Alicia, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Stéphane Servant. Bonjour Stéphane.
Bonjour Claire.
Qui vient exprès pour Page à Page de Carcassonne. Alors merci beaucoup de ta présence. Et puis, petite surprise, j'ai un autre invité, Manu Cause, bonjour.
Bonjour Claire.
Qui est venu accompagner Stéphane Servant, voilà, pour tout vous
jusque
dire.
Jusque dans les locaux de Radio Occitanie.
Voilà, mais en tout cas, ça me fait très plaisir de te voir aussi, Manu. Alors, quelques petites infos comme à l'accoutumée. Et avant de vous présenter donc le livre de Stéphane, qui s'appelle Guadalquivir, du nom du fleuve espagnol, bien sûr, aux éditions Gallimard. Alors, ce soir, à 18h30, à la bibliothèque municipale de Balma, qui se situe place de l'Église, une lecture bilingue français-anglais par Anne Cameron de la compagnie Autre Mot, une lecture d'une nouvelle de Virginia Woolf, qui s'appelle Un roman qu'on n'a pas écrit, publié, donc c'est une nouvelle qui a été publiée en 1921, et la durée de la lecture est d'environ 50 minutes. Donc si vous êtes à Balma ce soir ou pas loin, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, un concert, alors ça c'est pour Manu, un concert Folk in Church, c'est samedi 28 mai à 20h30, c'est à l'église Saint-Pierre des Chartreux, je ne sais pas si tu connais. Bon, c'est 21 rue Valade à Toulouse. Et donc, il y aura trois groupes, dont Anabase, le groupe de Pierre-Emmanuel Scherer, que vous connaissez, les auditeurs de Page à Page, puisqu'il était venu nous présenter son premier roman, Désert Pearl Hotel, il y a quelques mois, aux éditions de la Table Ronde. Et donc, ce concert, eh bien, il y aura bien sûr la bande originale de ce livre de Pierre-Emmanuel Scherer. Ensuite, je continue les infos. Mardi 31 mai à 19h à la librairie Terra Nova, qui se situe 18 rue Gambetta à Toulouse, une lecture des nouvelles du nouveau recueil de Julien Campredon, L'assassinat de la Dame de Pique, publié aux éditions Léo Cher. Alors Julien, que je recevrai d'ailleurs à Radio Occitanie le 15 septembre prochain, après l'été, après les vacances d'été. Et puis je termine avec cette dernière petite info. L'atelier d'écriture animé par Hélène Dufault, l'écriture de soi, aura lieu le dimanche 5 juin, de 10h à 17h, dans un atelier d'artistes près de la place du Capitole. Donc inscrivez-vous, car les places sont limitées, au 06 70 22 02 99.
Page à page, Claire Ambil.
Pou-pou-pi-doup. Alors, je me tourne maintenant vers mon invité. Oui, j'ai du mal. Alors, Manu est à gauche. Stéphane est à... Non, c'est le contraire. Manu est à ma droite. Stéphane est à ma gauche. Donc, je ne sais plus où regarder. Vous auriez dû vous mettre, en fait, tous les deux du même côté. Ça aurait été plus simple. Je vais être distraite, là, moi, maintenant. Alors, Stéphane, on s'était rencontrés au Festival du Livre Jeunesse de Saint-Aurens en janvier dernier. C'était Rachel Corenblit qui m'avait dit « Il faut que tu lises son livre, tu verras, il est super, ça va te plaire ». Et effectivement, eh ben, Guadalquivir m'a beaucoup plu. Donc, Stéphane Servant, vous êtes né à Carcassonne.
Oui, c'est bien ça.
Voilà, vous y êtes toujours d'ailleurs.
J'y suis toujours. J'ai passé un moment sur Toulouse. Et j'ai fait le choix de rentrer un peu à l'endroit
à la maison où
je suis né, essayer de faire bouger les choses dans ce département rural. Voilà.
Donc, ouais, c'est une jolie région. Hein,
c'est très beau, c'est très beau. Joli, mais hein. il y a aussi pas mal de choses à faire.
J'imagine.
Donc voilà, moi je me suis aventuré un petit peu dans la programmation culturelle, dans l'éducation artistique.
Après des études littéraires, donc il y a quand même, voilà, l'écriture est quand même...
L'écriture a toujours été présente.
Ouais, présente, oui.
Et puis, ça ne m'a jamais quitté jusqu'au moment où j'ai décidé de partager ça avec des lecteurs. Donc, d'envoyer mes premiers textes chez des éditeurs.
Et ça a marché.
Et ça a marché.
Donc vous êtes auteur et illustrateur, parce que vous avez fait du graphisme aussi.
Oui.
Donc vous illustrez aussi les albums jeunesse.
Ouais. Je travaille essentiellement en presse, donc chez Milan Presse, mm-hmm. et en communication. L'écriture prend de plus en plus de place, donc, la partie graphisme est devenue secondaire.
Vous avez fait d'ailleurs des albums avec Cécile Bonbon, qui est venue nous parler il n'y a pas longtemps de Rue Lapuce.
Ouais,
donc
ouais.
Vous avez fait quelques albums avec elle.
Ouais, Le Machin, chez Didier Jeunesse.
Oui, voilà. Et puis il y avait
O et A.
Voilà, O et A, voilà, je savais que c'était
Point de suspension.
Très, voilà.
Ouais.
Et puis donc là, vous en avez sorti un dernier, enfin un récent, je veux dire, Desigoto chez Crapoto. C'est un album jeunesse aux éditions de l'Élan Vert.
Voilà, c'est une collection un peu particulière qui s'appelle la collection Pont des Arts. Donc l'idée est d'investir l'univers d'un plasticien. Donc là, j'ai travaillé sur Jean Dubuffet, partir d'un tableau de Jean Dubuffet, et Christine Détour, qui travaille aussi beaucoup chez Didier Jeunesse, a fait les illustrations.
Oui, Didier Jeunesse qui a d'ailleurs publié Cécile Bonbon, justement,
voilà,
je
c'est
crois,
ça.
Pour Rue Lapuce, hein,
ouais.
Le livre animé,
ouais, ouais.
Là.
Ouais. Et donc voilà, on a investi l'univers un petit peu de ce peintre qui était anticonformiste.
Oui, je connais du tout sa bio, mais.
En gros, c'est lui qui a posé les termes d'art brut sur cette forme d'art. C'est lui qui a fait découvrir ça, un petit peu l'art des fous, l'art des personnes un peu recluses comme ça, quelque chose de très instinctif, de très souterrain.
Apparemment, il a l'air de vous plaire ce peintre.
Ouais, ouais, ah, ouais.
La manière de vous en parler, on sent que.
Ouais, c'était vraiment une. Enfin, l'éditrice m'a contacté, m'a dit, écoute, si tu as un peintre que tu aimes bien, vas-y, lance-toi.
Donc ça a été.
Jean Dubuffet, moi, dont l'univers me fascine. Voilà.
Bon, ben, voilà. Donc beaucoup de choses. Hein. Donc vous avez aussi exercé en milieu scolaire aussi dans les écoles. Vous y allez toujours dans les écoles pour parler de ce que vous faites.
Ouais, ouais. Moi, oui. j'y vais pour parler effectivement de mes textes, pour faire des lectures. Mais j'ai beaucoup travaillé en milieu scolaire et milieu associatif, donc Fédération d'éducation populaire. Et donc j'intervenais sur tout ce qui était discipline artistique, art plastique, photographie, écriture.
D'accord. Oui, donc voilà, tout ce qui est... vous êtes un artiste, en fait, Stéphane.
Bah, si vous le dites, Claire.
Oui. J'ai envie. Je ne sais pas ce qu'en pense Manu. Un petit commentaire,
Manu.
Je confirme. Bon, voilà, donc tout va bien. Je ne me suis pas trompée. Alors, Guadalquivir, votre premier roman, finalement, après, donc, comme on vient de dire, de nombreux albums jeunesse. Là, c'est un premier roman, mais qui s'adresse quand même à la jeunesse, hein, aux adolescents, on va dire. Je ne sais pas à partir de quel âge la maison d'édition l'a fixé. Mmh.
Alors ça s'adresse.
C'est une collection qui s'appelle Scripto. Hein, Scripto
c'est,
de
voilà,
chez
Gallimard. Chez
Gallimard,
la collection Scripto. Moi, j'ai tendance à dire que voilà, ça s'adresse à qui veut bien s'en saisir.
Oui, bah d'ailleurs, moi, j'ai bien aimé. Hein, et voilà. Pourtant, je pense plus être une ado.
Je pense pas qu'il y ait de limite d'âge.
Voilà.
Par contre, après, voilà, les questionnements qui sont abordés dedans, je pense que, voilà.
Peut-être 12, 13 ans, 12 ans. Ça dépend aussi de la maturité.
Jeune,
oui,
voilà.
Ça dépend de la maturité des enfants aussi, enfin, de l'enfant.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, c'est un livre, voilà, plutôt pour les grands, enfin, les grands ados. Alors, Guadalquivir, comme je le disais, donc, ce premier roman, une très belle écriture. Moi, j'aime beaucoup votre style, Stéphane. Et puis, donc, le titre, hein, bien évidemment, on comprend à la lecture toute l'importance qu'a ce fleuve dans ce roman. Hein, c'est en le lisant. Et puis alors j'aime bien parce que ça, vous avez précédé donc le début du roman par deux choses. Un extrait d'une chanson qui s'appelle La Rage de Kenny Arcana. Mmh. Alors qui trouve tout son sens à la lecture aussi du livre, hein, on va le voir. Et puis une deuxième chose, un petit proverbe d'Antonio Machado qui prend lui aussi tout son sens dans la deuxième partie, je dirais, du livre et que je vais lire parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est « Voyageur, le chemin, c'est les traces de tes pas, c'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. » Et voilà, que dire de plus, hein. Ça y est, c'est fini. Au revoir. Non, voilà, c'est un très beau proverbe, et comme je disais, qui prend tout son sens, à mon avis, dans la deuxième partie du livre, au fil du voyage de Frédéric. Alors, on va en parler, justement. Donc, c'est l'histoire de Frédéric, hein, un ado un peu à vif, comme il y en a certainement beaucoup, hein. C'est un peu l'âge, comme on dit, l'âge ingrat, l'âge un peu difficile où chacun se cherche. Et donc, il manque de repères et d'histoires, hein, par rapport à la mort de son père. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il manque un peu de repères. Et puis, il se cherche, finalement, il cherche son chemin. C'est justement, on parle de chemin avec le proverbe. Il cherche un peu sa route, Frédéric.
Oui, il cherche un... Enfin, je pense pas que sur le début du roman, il cherche sa route. C'est un portrait
ensemble,
général, ouais.
Oui, voilà, ouais. C'est un peu pour situer... Non, il cherche rien, lui, au départ, effectivement. Mais il va trouver quelque chose.
Mais
quoi.
Il va trouver
quelque
chose,
c'est en cherchant rien,
voilà,
des fois, qu'on trouve, finalement...
Donc, sur le début du roman, on suit Frédéric, donc, qui vient de perdre son père. Un accident. Oui. Donc, son père était immigré espagnol.
Oui. L'importance de l'Espagne dans ce livre. Hein.
Son père avait honte de ce statut-là, un petit peu
de réfugié. Son histoire et ses racines.
Il a caché toute l'histoire familiale à Frédéric, en fait.
Voilà, en fait, c'est pour ça que quand je disais, voilà, il n'a pas de repère et pas d'histoire, voilà. C'est un peu lié à ça. Et puis bon, il est plein de violence, Frédéric, hein. Il est très sensible également, hein. Je veux dire, il est au début du roman, justement. Finalement, il est entraîné, il nous entraîne, hein, nous aussi, lecteurs, dans une sorte de road movie où on rencontre plein de personnages, alors des personnages très émouvants comme Pépita, sa grand-mère. Moi, j'adore Pépita. Et puis, d'autres beaucoup moins sympathiques, hein, à découvrir dans le roman. Et puis c'est un peu, moi ça m'a fait penser un peu au papillon qui sort de sa chrysalide à la fin du roman, enfin, et même au cours du roman. On voit évoluer Frédéric, on le voit finalement grandir par sa quête, c'est un peu une quête de lumière, même s'il ne s'en rend pas compte au début, hein. Il va plus vers la lumière, il quitte l'ombre du début pour aller vers la lumière, et c'est un peu, finalement on s'aperçoit qu'il grandit au fil de ce voyage.
Ouais, c'est ce qui me...
C'est ça que vous avez voulu...
En tout cas, c'est ce qui me passionne dans la littérature, hein, qui met en scène des adolescents. C'est cette phase-là de la vie où on est en pleine transformation et où tous les possibles s'ouvrent,
possibles,
s'ouvrent devant nous.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, l'importance des choix que l'on va faire à ce moment-là et qui vont faire de nous des adultes plus ou moins libres.
Tout à fait.
Donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien écrire, je dirais pas pour les adolescents, mais en tout cas mettre en scène des adolescents et mettre en lumière, voilà, cette phase-là. Mais l'image de la chrysalide est très belle. Ouais.
Ah, bon.
Ça correspond tout à fait.
Voilà, bah j'y ai pensé parce que, bon, voilà, grandir, c'est aussi un peu ça, c'est la transformation, l'évolution. Et alors, on voyage beaucoup aussi, on voyage tout du moins en Espagne, beaucoup en Espagne, dans ce roman, dans le sud de l'Espagne, hein, où justement, vers les racines de Frédéric, hein, comme on le disait à l'instant, vers le poète aussi Federico Garcia Lorca. J'adore ce poète, et donc ça m'a fait plaisir de le trouver dans votre roman, Stéphane. Et puis donc vers le Guadalquivir, hein, bien sûr, ce fleuve espagnol, et jusqu'à l'embouchure, hein, c'est-à-dire à l'extrême sud, je ne sais pas si je prononce bien, Jerez de la Frontera.
Voilà, avec la Rota.
Ah oui, Jerez, alors, ouh là là, c'est compliqué ça. Jerez de la Frontera, vraiment à l'extrême sud, là où se finit le fleuve, le Guadalquivir. Donc on va jusqu'à là. Hein,
voilà l'histoire.
Dans ce roman.
L'histoire finit là, ouais.
Finit là, oui. Alors ça commence, alors on va prendre par le début quand même. Alors ça commence en fait par un incendie, hein, dans un local à poubelle, hein, en fait. Ça commence par ça, l'épreuve du feu pour Croco, hein, c'est-à-dire... Frédéric, en fait, il a un surnom pour, c'est une initiation pour faire partie donc du groupe La Meute, hein, qui est composé de Cobra et de Chacal, voilà, des noms très très
très animaux.
Très animaux, très... voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors ça c'est le début. Donc voilà, on voit un Frédéric très qui cherche à se faire accepter par un groupe, qui a besoin de ça, dans une bande de skinhead. Et puis on voit aussi donc la guerre des gangs, hein, donc côté tour contre côté pavillon, avec le supermarché au milieu qui sert de frontière entre les deux gangs, enfin entre les deux bandes, les deux gangs. C'est jusqu'au drame, hein, finalement, parce qu'il y en aura un. Hein, ça, la violence, ça n'amène finalement jamais rien de bon. Alors ça, c'est le début. Et puis, on y parle de choses aussi aussi intéressantes. D'ailleurs, on y parle de l'Alzheimer, par exemple, dans votre livre avec Pépita, la grand-mère de Frédéric, une adorable grand-mère. On aimerait bien avoir une grand-mère aussi pétillante que Pépita. Alors voilà, on parle aussi de l'Alzheimer dans votre livre, de la mort du père de Frédéric, comme vous le disiez au début. On parle de beaucoup de choses, hein. On parle donc du voyage. Alors c'est aussi le voyage en train de Frédéric et Pépita, donc avec un voyage avec des moments très cocasses, hein. Je veux dire, on sourit, hein. Il y a des passages qui sont amusants dans ce voyage en train. Donc Frédéric et Pépita partent en train vers l'Espagne, quoi, à la suite de ce drame qui s'est passé.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que Pépita, Frédéric, donc, se retrouve un petit peu entraîné à la suite de cette bande, dans un espèce de déchaînement de violence. Et c'est un coup de fil un soir qui va faire que sa route va bifurquer. Un coup de fil de Pépita, la grand-mère, qui s'enfuit de l'hôpital
où elle
qui l'appelle de la gare, qui lui dit écoute, je pars
en Espagne, elle veut rejoindre Espagne, ses racines, elle a besoin de
avant de mourir, revoir un petit peu l'endroit là, où elle a aimé
son mari.
Et donc Frédéric se retrouve entraîné avec sa grand-mère
dans un train sans billet, donc on imagine tout ce qu'il peut. Donc voilà, il y a des moments qui sont cocasses, des moments pleins de surprises. Puis sa grand-mère, elle est toujours... elle est pétillante, comme je disais, puis elle est pleine de bon sens et pleine d'optimisme. Elle dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Elle ne lâche jamais, elle est prête à... D'ailleurs, elle le fait, elle assomme un policier avec son sac à main. Enfin voilà, il y a des passages amusants. Et alors lui, il dit de sa grand-mère, ma grand-mère et son cerveau comme une maison sans porte ni fenêtre. Je trouvais ça très... Voilà, l'Alzheimer décrit de cette façon, je trouve ça c'est joli, quoi. Et puis Pépita qui dit d'elle-même également « Je ne suis pas malade, c'est juste mes souvenirs qui s'enfuient ». Et oui, l'Alzheimer, c'est ça aussi, hein, c'est tout ce passé qui se dérobe à la mémoire. Alors justement, il y a des souvenirs d'enfance qui viennent dans la tête de Frédéric au cours de ce voyage, hein, parce que ça lui rappelle ses vacances en Espagne avec ses parents, justement chez Pépita, chez sa grand-mère, quand elle y habitait. Et il dit d'ailleurs, quand mon monde avait encore ma famille pour unique frontière. Donc c'est-à-dire quand il y avait encore ses deux parents, hein, quand son père n'était pas encore décédé et que il y avait un semblant, enfin pas un semblant, il y avait du bonheur en Espagne, tous ensemble, tout ce côté familial qu'il n'a plus finalement.
Ouais, quand le moment où il était protégé un petit peu
oui.
Des agressions du monde extérieur,
tout à fait.
Une espèce d'innocence perdue.
Oui, grandir c'est un peu ça aussi, hein, quelque part. Alors, on découvre aussi le fleuve, hein, le Guadalquivir, hein, ce vieux taureau, hein, c'est noté, j'ai bien aimé l'image. Et d'ailleurs, il sera toujours là pour porter nos souvenirs. Hein, il est plein de souvenirs, en tout cas pour Pépita. Hein. Et puis, le poète Federico Garcia Lorca, qui était donc, Pépita raconte, hein, qu'en fait, le poète était un ami de son mari, d'Alejandro, le grand-père de Frédéric, et ils ont été fusillés finalement le même jour par les franquistes et les corps ont été jetés dans le Guadalquivir.
Alors là, c'est un peu le mystère du livre. On ne sait pas si c'est...
si c'est vrai.
Si c'est la réalité ou
oui,
si c'est Pépita.
Oui, mais peu importe.
Qui crée tout ça.
Après chacun... chacun croit ou ne croit pas. Disons que c'est... l'histoire est là. Enfin, après, on la croit ou on ne la croit pas. Je veux dire, Pépita raconte tout ça à Frédéric au cours du voyage et finalement ça va lui faire prendre conscience de beaucoup de choses à Frédéric. Ça va lui apporter beaucoup de choses, ces conversations avec sa grand-mère, c'est toute cette partie d'histoire, de son histoire à lui aussi, qu'il connaît maintenant grâce à sa grand-mère, puisque son père avait occulté beaucoup de choses. Hein, puisque
Pépita qui va dévoiler un petit peu ses racines.
Tout à fait, tout à fait. qui lui raconte donc ce passé, donc son histoire aussi. Et donc il se sent mieux finalement, Frédéric. À un moment, il dit: pour la première fois, il me semble que je suis à la bonne place, que j'ai fait le bon choix. Quelque part, c'est positif, quoi. Il retrouve ses racines, ça le rassure finalement, puis de connaître son histoire aussi.
Hein. Ouais, c'était un des questionnements qui était à la base de mon envie d'écriture là sur ce roman-là. C'est qu'est-ce que c'est une famille? Quel est le poids comme ça d'un passé familial? Qu'est-ce que c'est un secret de famille? Qu'est-ce que c'est des racines? Est-ce qu'on peut savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient?
Tout à fait,
c'est ce que je voulais explorer un petit peu à travers le personnage de cet adolescent dépossédé de son histoire familiale.
Tout à fait, mais c'est tout à fait bien retranscrit dans votre roman, Stéphane. Et puis, il y a la rencontre avec Kenza et son père Béchir, hein, qui est importante, hein, cette rencontre aussi. Puis ce voyage donc qu'ils vont faire à quatre, hein, donc ils vont rejoindre Pepita et Frédéric. Et puis, tous les quatre, ils vont aller donc vers Jerez de la Frontera. Là, je pense que j'ai bien prononcé.
Parfait.
Jusqu'à l'embouchure du Guadalquivir. Donc, tous les quatre avec un tas de choses qui vont se passer. Mais on laisse le suspense, le mystère au lecteur. Il y a juste, bon, ce qu'on peut dire, il y a une superbe discussion entre Béchir, donc le père de Kenza, et Frédéric sur la douleur et la perte d'un être cher. Je pense que ça aussi, ça apporte beaucoup à Frédéric de parler avec un adulte de choses dont il n'a jamais parlé finalement avec personne. Donc d'en parler avec Béchir, quelqu'un d'inconnu, hein, pour lui finalement, ça, je pense que c'est important aussi.
Bah, Frédéric, c'est un personnage un peu privé de parole, et je pense que c'est pour ça qu'il rejoint cette bande de skinhead au début. Il n'a pas les mots pour dire la douleur qui brûle en lui.
Donc il le fait par des actes, quoi,
voilà.
Des actes de violence.
Et effectivement, ce moment de discussion avec Béchir, on peut imaginer que c'est ce qu'il aurait aimé partager avec son père. C'est peut-être ce qu'il n'a pas pu faire. C'est une manière de vivre ça. Voilà, à un moment donné particulier, puisque à ce moment-là, il a retrouvé son histoire familiale. Donc, quelque part, comme vous disiez, il se sent un peu plus à sa place à ce moment-là.
Ouais, voilà,
il est capable d'exprimer ce qu'il a sur le cœur.
Voilà, aussi de mettre des mots. Et puis, il y a alors, avec Kenza, par contre, ça se passe moins bien. Il y a beaucoup de disputes, de haine, hein, violentes, hein, entre eux, jusqu'au moment où elle le sauve de la noyade, justement, dans le Guadalquivir. Et là, donc, les choses vont changer un petit peu, enfin, vont changer même radicalement entre eux. Mais sinon, c'était vraiment la guerre entre eux, mais Frédéric s'aperçoit finalement qu'ils sont pareils, tous les deux. Ce sont tous les deux des écorchés vifs, et donc, qui ne savent pas, justement, comme vous le disiez, qui ne savent pas s'exprimer avec des mots, qui ne savent pas dire les choses, et donc, ils étaient vraiment montés l'un contre l'autre. Et à un moment, d'ailleurs, il dit une très belle phrase, Frédéric: nos yeux pleurent de ne pas pouvoir dire ce qu'ils voudraient. Voilà, c'est tout à fait ça finalement, et toute la rage qu'on a, tout l'amour qu'on a. Voilà, en fait c'est ça, l'impossibilité de dire les choses, et donc forcément on se renferme et ben, ça explose, ça implose plus exactement, c'est le principe de la cocotte minute.
Oui, hein, bah, c'est un petit peu le personnage de Frédéric qui explose à plusieurs moments dans le roman.
Oui, tout à fait.
Il est incapable de dire ça simplement.
Et Kenza aussi, Et Kenza aussi, finalement, ils sont pareils. Tous les deux, ils se sont bien trouvés, entre guillemets. Enfin, c'est rigolo, quoi.
Ouais, Kenza, donc ce personnage-là a une histoire difficile aussi. Et c'est véritablement l'image miroir de Frédéric. Au départ, je ne sais pas si on a un peu de temps.
Je ne sais pas. Quelle heure est-il, Manu?
9h53.
Ah d'accord, oui, effectivement. Donc nous avons très peu de temps, Stéphane.
Bon,
nous allons nous dépêcher.
Voilà, je laisse le soin au lecteur d'explorer comme ça ces personnages-là.
Mais moi, il y a deux passages avant de terminer. Il y a deux passages qui m'ont bien plu, donc je n'aurai pas le temps de lire les phrases qui s'y rapportent. Mais il y a le passage où justement, Frédéric comprend que l'ennemi est en lui. hein, justement après sa presque noyade dans le Guadalquivir, après un autre moment aussi d'affrontements armés avec d'autres personnes, etc. Donc là, il prend conscience vraiment que l'ennemi est en lui, en fait, que c'est pas la personne en face qui est l'ennemi, c'est lui-même, c'est le secret, c'est tout ce qui est enfoui en lui qui est l'ennemi, en fait, pour lui. Et puis, il y a un autre passage qui est très émouvant, c'est celui de Pepita qui arrive à l'embouchure du Guadalquivir. Et ça, c'est un passage qui est très émouvant. Et rien qu'avec votre écriture, Stéphane, vous arrivez justement à rendre le passage donc émouvant avec Pepita, puis le passage très fort avec la compréhension de Frédéric sur lui-même. C'est là où il a grandi, quoi, finalement. C'est là où le papillon va se déployer, quoi. Et ça se termine avec une très jolie image. Il lit son premier livre de Federico Garcia Lorca. Frédéric. Hein, il trouve le livre chez Pepita, dans la maison donc, où il a passé ses vacances quand il était petit. Et il trouve ce livre de Federico Garcia Lorca et décide de le commencer, quoi, finalement.
Oui, alors que c'est un personnage... Frédéric n'a jamais lu un livre.
Voilà, oui, c'est ça.
Coupé de la parole.
Il a envie, là, cette envie de...
Voilà,
de...
c'est une manière aussi d'investir sa propre histoire.
Tout à fait, ses racines.
Et moi, ce qui me plaisait beaucoup dans le personnage de Garcia Lorca, c'est la figure du poète, un petit peu.
Oui.
Fusillé à cause de ses mots.
À cause de ses mots, oui, tout à fait.
Et comme je dis souvent aux lecteurs, aux ados, aux jeunes que je rencontre, dans les dictatures, c'est souvent les intellectuels, les artistes qui ont fusillé en premier.
C'est vrai. Oui, parce que comme quoi le pouvoir des mots.
Le pouvoir des mots, les mots peuvent être des armes et je pense que Frédéric l'a compris à la fin du roman.
Tout à fait. Alors, donc c'est un très beau roman, Guadalquivir, aux éditions Gallimard de Stéphane Servant. Alors d'autres projets? Un autre roman?
D'autres projets, ouais. Là, je viens d'écrire un texte assez court qui met en scène deux adolescentes dans un territoire qui pourrait être la Perse.
D'accord.
Et il y a comme ça le grand bond d'une révolution à venir.
D'accord.
Et des envies de liberté, de la musique.
Donc la liberté est toujours omniprésente.
Voilà.
Donc vous viendrez nous en reparler, Stéphane?
Avec plaisir.
Alors... On va se quitter avec une chanson qui est citée dans le livre « La rage » de Kenny Arcana.
Très bien.
Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Merci Manu d'être venu. Et à bientôt j'espère Manu pour quelque chose en écriture à présenter.
Ça peut venir, oui.
Ah ça va venir, j'en suis sûre. La semaine prochaine, pas d'émission, c'est l'Ascension. On se retrouve le 9 juin, oui, avec Olivier de Robert pour Les Croix de la Honte aux éditions TME. Et on écoute La Rage. Alicia.
Comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains travées, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes te volent ton enfant, pas. Imagine un mur et un poli. La rage, car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur. Ses barricades et béton, aurait-il peur de la nature. La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie. La rage, d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc.
La rage,
c'est tout ce qui nous laisse,
passons
tout ce qui nous reste.
La rage,
car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses.
La rage,
de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout leur champ OGM stérilise la terre.
La rage,
pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage,
car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de vos rêves pour placer leur rempart.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste.
Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage, car ce monde voit rouge, mais de Chris aille s'entourer, parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop, et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés, l'élite de nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change, ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, les punitions. La rage, ouais, la rage ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage.